Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivet.
Aujourd'hui, nous recevons dans ce studio le propriétaire d'un van derrière lequel je vous déconseille de rouler trop longtemps, sous peine d'avoir les poumons légèrement encrassés, un comédien qui a commencé sa carrière sur les planches, où il a notamment joué aux côtés de l'immense Michel Bouquet. Vous l'avez découvert, il a été révélé par la série Quint. Bonjour Bruno de Brandt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ravi de vous recevoir. Le Voyageur, c'est le titre de la série de France 3, une fiction dans laquelle vous endossez le rôle du commandant Yann Kandinsky. Pour quelle raison ce voyageur est-il si rare à la télévision ? Le voyageur, on sait, ça marche. À chaque fois, les audiences sont bonnes. Pourtant, il est très, très rare. Encore plus rare qu'une Joséphine Ange Gardien, j'allais dire.
Alors ça, c'est une je pense que c'est...
C'est volontaire.
Non, je pense que c'est une espèce de... Comment dirais-je ? Vous n'avez pas oublié qu'on a vécu un confinement pendant
c'est vrai.
Un an et demi. Et donc, il y a eu une déstabilisation des programmes énormes. Et tout d'un coup, il y a eu un besoin de contenu énorme. Donc, il y a eu beaucoup de productions de ce genre de format, c'est-à-dire des 90 minutes qui sont amenées à revenir. Ce genre de format avant était plus rare et on en produisait en général 4 par an. Et puis tout d'un coup, il y a eu énormément de contenu, énormément de production, donc il a fallu le répartir. Et donc pour l'instant, ce genre de format, on en est à en produire 2 par an. Du coup, le temps de les fabriquer, on a 2 diffusions. Et puis, on rediffuse les inédits. Et donc là, par exemple, là, on va avoir, pour ma participation, moi, au Voyageur, j'en ai fait 4 déjà. Là, je pars demain pour faire un 5e. Puis un 6e dans 2 mois en Ardèche. Mais on va avoir 3 semaines de diffusion des Voyageurs parce qu'il commence à y avoir une petite collection.
Mais vous aimeriez en faire plus?
Ça peut bouger.
Par an, Bruno, ou pas?
Ça peut bouger.
3, 4, 5, par exemple, par année, vous aimeriez avoir cette régularité-là? Non, pas plus.
Ce qui est très agréable pour moi, c'est que moi, j'aime, alors sans faire de mauvais jeu de mots, j'aime voyager, j'aime me déguiser. j'aime l'aventure des nouveaux projets. Donc,
faire deux par an me permet de
faire autre chose. Et puis aussi, ce que j'aime, moi, c'est vraiment, pour le coup, je choisis mes projets, je veux protéger l'écriture. Donc, moins il y en a.
Meilleure est la qualité, a priori.
Et oui, parce qu'on prend le temps de les écrire, on les peaufine, on fait vraiment. Donc, 4, ça va. Sur ce format de 90, 4, c'est bien parce qu'on a vraiment le temps, c'est un par trimestre. On a vraiment le temps de le fabriquer, de le préparer.
4, c'est bien. On retiendra 4, évidemment bien. cette formule de Bruno de Brandt, on va poursuivre.
Comme les pieds d'une chaise.
c'est vrai.
Comme, voilà, comme
les roues d'une voiture.
Le trépied, ça tient. 3 ou 4.
3 ou 4.
On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live, bien sûr. On va parler de cette fiction. On parlera aussi de vos autres projets, Bruno. Tout de suite, les news médias de Damien Canivès. Salut Damien.
Salut Nicolas. Salut Bruno.
On va démarrer ces infos médias avec Denis Brognard qui se retrouve au cœur d'une polémique, on peut le dire, depuis ce week-end.
Exactement. L'animateur de Koh-Lanta est accusé de faits graves par d'anciennes collaboratrices qui ont croisé sa route. C'est le magazine Voici qui révèle ces informations dans son dernier numéro. Ces femmes l'accusent d'avoir eu des propos extrêmement virulents, comme ce jour de juillet 2022 où il était envoyé spécial à Biscarros. Il se serait emporté contre une journaliste et une attachée de production. La première était tétanisée, la deuxième a éclaté, paraît-il, en sanglots. Alors, beaucoup de témoignages, c'est vrai, dans cette enquête sont anonymes, mais 3 femmes, malgré tout, ont accepté de témoigner publiquement. Il s'agit de Marion Jolès, qui affirme que les 2 années passées aux côtés de Denis Brognard dans Automoto étaient les pires de sa carrière. Anne-Laure Bonnet, qui a travaillé avec l'animateur sur la Formule 1, a déclaré quant à elle qu'il piquait des colères folles avec ses subordonnés. Et enfin, Charlotte Namura a rapporté quant à elle une scène datant de 2018. Ça se passe à ce moment-là sur le plateau du Mac de la Coupe du Monde. Et lors d'une coupure pub, il lui aurait lancé dans une colère froide qu'elle n'était qu'une merde, tout juste bonne à sourire.
Ah oui, quand même.
Ah ouais,
et qu'a répondu Denis Brognard, d'ailleurs?
Eh bien, il fait profil bas, Denis Brognard, forcément. Voici ce qu'il a déclaré pour sa défense. « J'ai des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes, et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement qui faisait suite à certaines difficultés. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser. » Alors, du côté de TF1, on réagit aussi. Thierry Tuilier, qui est le directeur de l'info, a réagi dans les colonnes du Parisien. Il a indiqué qu'il avait rencontré Denis Brognard il y a plusieurs mois de ça, à la suite de remontées. Et depuis, plus aucune plainte. Donc pour l'instant, l'état-major de TF1 a choisi de ne pas l'écarter pour le moment.
Bruno, ça vous est déjà arrivé de piquer des colères comme ça sur des tournages plus ou moins justifiés, ou vous êtes plutôt du genre zen?
J'irai pas jusqu'à dire que je suis zen. C'est drôle, Denis, parce que moi, j'ai un passé de sportif. J'ai une discipline intérieure qui m'interdit les colères. Je contrôle assez bien.
Et pourquoi ça vous surprend?
Et puis, je m'en prends moi-même avant de m'en prendre aux autres.
Oui, exigeant avec vous-même.
Ça me surprend toujours. C'est surtout que ça me fait de la peine, en fait. Ouais. Ça me fait de la peine quand, homme ou femme, on n'arrive pas à prendre le contrôle sur soi parce que ça fait du mal aux autres. Voilà, s'il le reconnaît et qu'il s'excuse et que c'est avéré, etc., voilà, ça suffit. Moi, ce qui me gêne dans toutes ces aventures, c'est les proportions que ça prend et les allures de procès public. Ouais. C'est toujours très difficile, quoi.
De subir
voilà,
ça.
Voilà, après, la colère, c'est sain. Je suis en train d'excuser Denis. Et voilà, c'est sain. C'est d'abord naturel. On a le droit. Mais,
à partir du moment où vous manquez pas de respect.
À partir du moment où on ne blesse pas l'autre. Alors, on parlait de Michel Bouquet tout à l'heure. Voilà un homme que... La colère de Michel, alors que c'est un homme d'une élégance inouïe, c'était une colère qui ne s'adressait qu'à lui-même. Moi, je voyais Zeus. Parce que Michel Bouquet en colère, c'est Zeus. C'est-à-dire que ça vibre.
Ça vibre partout. Ouais,
voilà.
Vous accrochez.
Quand vous avez parlé de colère, j'ai pensé à Michel. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'était la colère. Ouais. Mais c'était la colère divine. Et tout d'un coup, c'était contre lui. Et donc, évidemment, il ne faut pas être dans le passage.
À l'inverse, ça vous est arrivé sur un tournage d'être victime comme ça d'un réalisateur, d'un producteur qui a eu des colères un peu tyranniques envers ses équipes, les comédiens ou quoi que ce soit, ça vous est déjà arrivé ou pas?
Je crois qu'on se méfie parce que, comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais. Non, moi j'ai.
Mais ça vous est pas arrivé d'avoir un réalisateur tyrannique ou qui hurle pour un rien ou pour un
Non, je n'attire pas la colère.
Ça va.
On se méfie.
Vous attirez la sympathie, vous.
Oui.
On poursuit ces infomédias, ouais. Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 21.
Oui.
Vous jouez au blackjack, c'est
ça ? Ah, j'aimerais bien, Nicolas, gagner beaucoup d'argent, bien évidemment, mais ce n'est pas le cas. C'est le nombre de jours durant lesquels l'humoriste Pierre-Emmanuel Barret sera resté chroniqueur dans C'est l'hebdo sur France 5. À vrai dire, comme cette émission est hebdomadaire et diffusée uniquement les samedis, eh bien, on l'aura vu que 3 fois à l'écran. Alors pourquoi si peu, malheureusement ? Eh bien, parce qu'il a décidé de claquer la porte de son émission, figurez-vous. Il a justifié son choix aux Parisiens en indiquant qu'on lui a demandé d'enlever trop de choses dans sa chronique pour que ce soit acceptable. Alors, ce dimanche après-midi, il a précisé à travers un message publié sur son compte Twitter un peu les raisons pour lesquelles il a décidé de prendre la poudre d'escampette. Je vais vous citer son message. Il semblerait que, contrairement à ses élèves, Brigitte Macron soit intouchable. Fin de citation. Donc, a priori, la première dame serait plus ou moins dans l'histoire.
Ah voilà. Oui, d'accord. Il avait dû écrire des choses. Est-ce que ces thèmes abordés, enfin, vous l'abordez parfois dans les fictions, sont parfois très lourds. Est-ce que vous avez l'impression que le sentiment de liberté est total en France? On reçoit beaucoup de gens, par pas mal d'humoristes, qui disent que maintenant, effectivement, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, le communautarisme un peu de chacun, ils hésitent beaucoup à dire, à écrire. Est-ce que vous l'avez vu aussi dans des fictions, cette espèce de restriction de liberté? On fait attention à tout, maintenant?
On a toujours fait attention à tout, en fiction. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai le sentiment inverse en fiction. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus libre. Il y a énormément de sujets qui étaient tabous, notamment autour de l'enfance, notamment autour de la différence, des communautés, justement.
Oui.
Et qui sont de plus en plus ouverts comme chantier, j'allais dire. Et donc, du coup, nous, en fiction, on a plutôt l'impression que les portes s'ouvrent et qu'on peut débattre de plus en plus librement.
Olorès, ce spectacle vivant, les émissions...
Sur cette histoire, cette espèce de climat qu'on a tous dans la rue, sentiment liberticide, c'est un mot qui est... Maintenant, on aime bien mettre des mots là-dessus, on entend parler de ça. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de... pays liberticide, mais on ne parlait pas non plus d'un dictateur en France. Donc, je crois que les Français, les irréductibles gaulois, puisque c'est d'actualité, devraient vraiment mettre de l'eau dans leur vin, être beaucoup plus philosophes. On fait des gorges chaudes de tous les débats. Et ça, la colère attise la colère, la violence attise la violence.
C'est quoi la cause? Les réseaux sociaux, pour vous, par exemple, qui sont aujourd'hui une façon de s'exprimer publiquement très simple, d'ailleurs.
C'est le revers de la médaille de la liberté. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est open bar. Je ne sais plus qui avait dit, j'ai trouvé ça... Je crois que c'est Darmon, que j'aime beaucoup. Gérard Darmon et sa liberté de penser, justement. Ouais. Et je l'avais entendu dire, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, en fait, c'était sur l'anonymat des...
Oui.
C'est-à-dire imposer, ou non, plus exactement, retirer L'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui. Ça aiderait déjà beaucoup de gens, d'abord, à être plus courageux. Moi, je trouve courageux la démarche de ce bonhomme, quel que soit le sujet.
C'est vrai.
C'est-à-dire le fait de faire une émission et de dire, bah, au bout de trois, je ne suis pas content, on ne me laisse pas faire ce que je voudrais ou machin, je me retire.
Donc, je m'en vais.
Le risque, c'est qu'il se
déporte. Moi, j'adore, j'aime ça. J'aime ce courage-là, j'aime cette conviction, j'aime cette liberté qu'il prend. Et ce risque qu'il prend.
Bruno Debrandt, on va parler évidemment de votre actualité. Hein. C'est Le Voyageur, série dans laquelle, je l'ai dit, hein, vous endossez le costume du commandant Jan Kandinsky. Et cette nouvelle intrigue est un peu spéciale puisque le suspect principal du meurtre, c'est votre frère. Bah, le frère du personnage, hein, évidemment. Comment est-ce que le commandant Kandinsky va gérer ce qu'on peut appeler quand même un conflit d'intérêts dans une enquête quand c'est un proche qui est inculpé?
Et ben voilà, ça fait partie du plaisir que j'ai à endosser ce personnage et à suivre ce projet du voyageur, c'est qu'on est constamment dans le débat. Oui. On est constamment dans le conflit d'intérêts, on est constamment dans la discussion. C'est-à-dire qu'on invite le spectateur à être sans arrêt en train de se poser la question si c'est juste. Ouais. Le contexte, il est assez simple. En fait, on venait de finir une espèce de courbe puisque Jan Kandinsky avait résolu cette histoire de carnet qu'il avait retrouvé dans le van, donc l'héritage d'Eric, enfin, du personnage de Bareski. Et donc, il y avait comme une espèce de fin d'aventure. Jan Kandinsky avait embrassé le voyageur et la quête de Bareski. Et tout d'un coup, il avait été au bout de ce fameux serial killer qui l'obsédait depuis 20 ans.
Absolument.
Et donc, du coup, on le retrouve d'ailleurs au début de l'épisode dans des vignes, parce que voilà.
Oui.
Il dit d'ailleurs au juge, parce qu'il y a quand même un petit fil rouge, même si on peut voir chaque épisode, il y a quand même un petit fil rouge qui nous permet d'avoir une mémoire collective sur le personnage et sur les aventures. À la fin du film, il dit vouloir prendre du temps pour lui, prendre un petit peu de temps pour son fils, etc. Mmh. Et qu'est-ce qui pouvait le ramener aux affaires, entre guillemets? Eh bien, c'est une affaire intime. Et donc, le mécénat, elle va le voir en lui disant, bon voilà, je viens vous... Qu'est-ce que vous venez m'emmerder dans mes vignes? Je suis tranquille, j'ai pris une disponibilité, je vous le rappelle. Et en fait, non, ben là, on lui apprend que c'est son frangin qui est inquiété. Or, voilà, on va découvrir, je ne vais pas spoiler,
surtout,
il a une relation particulière et que ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu. Tout d'un coup, voilà, il va repartir sur une affaire privée.
Absolument. Et c'est vrai que dans cet épisode, chaque téléspectateur va se remettre en question, puisque, en tout cas, chaque téléspectateur qui conduit, puisque les premières secondes démarrent sur une altercation entre deux automobilistes. Alors, on sait que souvent, les fictions aboutissent toujours sur une certaine morale ou quelque chose qui y ressemble. Est-ce que la morale de cette histoire, finalement, sans spoiler évidemment ce qui va se passer, c'est calmez-vous au volant, en fait.
Restez calme au volant.
Parce que franchement, on se rend compte que... une altercation au volant peut parfois prendre des proportions compliquées.
C'est le talent d'Hervé Corian, l'auteur des Voyageurs.
Ouais.
C'est qu'il arrive à mettre en exergue tout un tas de petits détails. Encore une fois, j'insiste là-dessus, parce qu'au-delà du plaisir d'incarner ce personnage, qui a une vraie forme de liberté et qui est en quête, ce format d'une heure et demie permet, au-delà de la fable policière, de mettre en relief tous les petits tracas du quotidien qui peuvent être des catastrophes, qui peuvent devenir des catastrophes, et tout ce qui nous occupe les uns les autres. C'est-à-dire qu'on a... j'adore l'authenticité et l'humanité qui ressort, en fait, de ce film, du Voyageur. Et ces histoires-là de civisme au volant, voilà.
Ça ressort, Mais c'est parfaitement exploité.
On l'a tous vécu. Et tu te rends compte, tu rentres chez toi le soir, tu as assisté à une espèce de
guérilla.
De guérilla dans ton quartier.
Ça vous arrive déjà, Bruno? Vous avez
bien
quel
sûr,
genre de conducteur, vous?
Vous
êtes déjà énervé au volant?
Bien sûr, voilà, pour le coup. Vous parlez de colère.
Attention.
Bien sûr.
Il ne faut pas vous voir au volant.
Non, mais je me souviens, moi, par exemple, de ma femme enceinte traversant sur les passages piétons et puis un automobiliste qui la frôle. Bon, bah là, heureusement que j'avais des copains qui étaient... parce que là, du coup, c'est un animal quand c'est ta femme qui plus est enceinte avec une espèce de... Voilà, j'ai couru après la voiture et...
et le conducteur est-il toujours de ce monde? C'est la question.
Oui, heureusement.
Vous l'avez rattrapé quand même?
Non, mais voilà, ça nous met dans des états. Mais c'est-à-dire, voilà, c'est le contrat social, c'est le contrat urbain. On est déplacé, on est des animaux. Heureusement qu'on se discipline et heureusement qu'on a ce contrat entre nous. Mais voilà, l'espèce de western permanent de la ville aujourd'hui, entre les vélos, les trottinettes, les bus, les machins, les trucs.
On ne remerciera jamais assez Anne Hidalgo.
Tu deviens fou. D'avoir
créé ça. Deviens fou. Effectivement. Oh, ça, c'est facile, Nicolas.
Alors, votre personnage, évidemment, Kandinsky, il a de l'humour, hein, mais il reste quand même, malgré tout, réservé. On sent qu'il n'est pas insensible au char féminin, mais alors, c'est pas du tout un dragueur. Il peut aussi s'énerver, mais en même temps rester calme. Est-ce qu'au final, c'est une espèce d'incorrigible timide sur la réserve? Comment vous le définiriez, Kandinsky, et qu'est-ce qu'il a de vous, Bruno?
Qu'est-ce qu'il a de moi? J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le définir, ce que je cherche en permanence, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que ce projet me permet d'être le plus authentique possible, d'aller chercher le minimum de masque, d'être le plus juste. Je ne parle pas seulement de sincérité, hein, parce qu'effectivement, il a plein de défauts. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher aussi les défauts de Ian Kandinsky, c'est-à-dire sa violence rentrée. Vous parliez de timidité, par exemple. Timidité, elle m'intéresse énormément, parce que c'est une espèce de grand écart entre la puissance et l'impuissance. Mmh. Et on y est confrontés tous. C'est-à-dire que voilà, ici on est à cette table, on est les patrons chez nous.
Bien sûr.
Mais et puis juste après, dans une autre situation, on va être plus timide. Et donc c'est cette espèce, on parlait de Denis Brogniart tout à l'heure. Ouais. C'est cette espèce de comment dirais-je, comment fait-on entre la sensation de toute puissance et puis la nécessité de vivre avec les autres. Et donc c'est ce grand écart permanence entre humilité et, j'allais dire, besoin de conviction. On est tous, les uns les autres, à chaque fois qu'on est ou au travail ou à la maison, père de famille ou maman, on a des besoins d'autorité, on a des besoins d'assurance, d'avoir des convictions. Et là, il faut convoquer chez soi une forme de puissance, une forme de souveraineté. Et puis, dans d'autres situations, il faut être beaucoup plus humble. Et ce n'est pas facile, ce grand écart. J'allais dire, c'est de l'humanisme.
C'est pour ça aussi qu'il est si solitaire. C'est vrai qu'en général, ça dépeint un type de polar qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. En général, il y a plutôt un homme, une femme ou un couple ou un duo de flics. Là, vraiment, le type est solitaire avec son chien. C'est un peu à part du reste de la production.
C'est une façon de re-réfléchir sur l'héroïsme.
Oui.
L'érotisme aussi. Hein.
L'érotisme
et l'héroïsme, bien sûr. Puisque c'est
avec
ça.
Le chien, pas compris.
Non, mais vous parliez tout à l'heure de la délicatesse qu'il peut avoir avec les femmes.
Ah oui. Oui, oui.
C'est-à-dire que...
Il n'y a pas de sous-entendu comme dans des duos de flics comme femmes classiques, on va dire.
Non, et ça faisait partie, moi j'avais insisté là-dessus, hein, ça permet aussi une plus grande liberté d'écriture, le fait que si c'est un homme qui se détache, alors soyons justes, s'il décide de réfléchir au sens de son métier, au sens de la société, c'est un homme abîmé, c'est un homme qui est peut-être en burn-out, c'est un mec qui est en pleine remise en question, il est dans une quête. Si on veut être juste avec ça et être le plus authentique possible, alors il faut qu'il soit dans le dépouillement, il faut qu'il soit dans la justesse, il faut qu'il s'interroge réellement. S'il reporte des masques, s'il remet des costumes et s'il remet...
Ouais, c'est pas possible.
Alors ça n'a pas de sens.
Nicolas, il a abordé la question du chien aussi. Il appartient à qui, ce chien qui vous accompagne? Parce que j'imagine que vous devez avoir un lien assez fort avec lui. Vous
tournez il change dans la vraie
souvent.
Vie,
c'est pas le même. Oui. C'est pas le vôtre quand même.
Non,
non.
Mais... Alors,
c'est le même à chaque fois. Enfin, vous l'avez.
C'est le même. Ouais, c'est-à-dire qu'on a une vraie fidélité. Là, pour le coup, on construit une fidélité. Parce que c'est pas rien de travailler avec des animaux.
C'est jamais simple.
Et il nous a fallu tout un film et de la préparation pour trouver une complicité, parce que c'est un animal.
Ouais.
J'entends un animal. Il a un vrai caractère. Il est jeune. Il est puissant. Ouais. Il a 5 ans. Hein, le chien. Maiko, c'est un chien de renifleur, donc il était confronté à des situations complexes, compliquées, de confrontation, donc il a des réflexes guerriers, donc il est extrêmement adroit, il est très vif, il est très intelligent, il est très puissant, et c'est un mâle. Ouais. Donc, par exemple, sur le plateau, toutes les filles, aucun problème. Les garçons, tout de suite, il fait le
compétition.
Donc, il m'arrive de me faire becter, mais voilà, il me remet en place.
Si vous êtes arrivé en boitant, c'est vrai, j'ai remarqué tout à l'heure.
Ah, si je fais pas... Si je ne fais pas ce qu'il faut, si je le contrarie ou que je le surprends, il me le fait savoir. Ouais. Donc, oui, il faut absolument que je construise en permanence une complicité avec lui. Bon, il se trouve que moi, j'adore ça. Donc
maintenant, ça marche bien entre vous et Maiko.
On est plus
alors.
Que copains. Ouais,
on est ravis.
C'est un bonheur. À chaque fois que je reviens, il me fait la fête. Ouais.
Alors, le dernier épisode diffusé et réalisé 4 millions de téléspectateurs, c'est vraiment des scores magnifiques pour France 3. Vous avez succédé en 2021 à Eric Cantona, qui avait joué le rôle avant du voyageur. on ne va pas dire que vous l'avez fait oublier, mais en tout cas, les audiences sont au moins aussi bonnes. Comment on succède à un personnage aussi, j'allais dire, charismatique qu'Éric Cantona ? Parce qu'Éric Cantona, quand il est quelque part, on le voit, on le sent. Vous avez regardé ce qu'il avait fait, vous avez dit, je ne vais pas du tout faire la même chose, ou comment vous avez fait pour le succéder à Cantona ?
Alors d'abord, j'avais besoin de sa bénédiction, c'est-à-dire que au moins j'étais débarrassé.
Ah, vous l'avez vu, vous l'avez appelé ?
Ah oui, mais on a échangé. Non, on n'a pas réussi à se voir parce qu'on était...
Mais on a échangé ensemble, et j'avais besoin de sa bénédiction, j'avais besoin qu'on parle. Et donc, une fois qu'il a été magnifique, et donc ça, c'était fait.
Il est impressionnant, aussi impressionnant qu'on le dit, vraiment.
Ah, mais moi, je suis un fan, en plus. moi,
vous le King, regardez, petit, Manchester United.
Ah oui. Et puis, au-delà de ça, au-delà du... Il fait partie des légendes, Eric. Ouais. C'est-à-dire qu'il a tout fait, il va tout faire, et il est libre. C'est un homme libre, c'est un homme qui a un caractère inouï. Donc, il a même une poésie intérieure qui est,
c'est vrai.
Qui est fantastique. Donc, quand il s'amuse, parce que c'est le cas, s'amuse à faire l'acteur, et qu'il le fait très très bien, pour nous, c'est assez déstabilisant. Si tu veux reprendre la suite, c'est compliqué. Donc, la seule façon d'échapper à la suite, à prendre la suite, c'était de lui rendre hommage en créant un autre personnage.
Ouais. D'accord.
Et lui, c'était Bareski, et vous, c'est Kandinsky.
Oui, oui. Oui, alors donc ça, il y a une familiarité slave qui me va très bien, moi. qui appartient à l'auteur. Ouais. Là, pour le coup, il dit, Hervé Corian, il dit que ça sonne bien, les noms... C'est dans notre mémoire collective des flics, des héros, des détectives, des Kandinsky, ça reste.
David Lansky. David
Lansky.
Johnny Hallyday. Ça une fiction inoubliable.
Donc, donc voilà, ça c'est... Ce qui, je pense, a permis aux spectateurs d'épouser la nouvelle version du voyageur, c'est que tout d'un coup, il avait exactement la réponse au concept. C'est-à-dire que n'importe qui peut être le voyageur. Tu peux t'identifier au voyage puisque c'est une idée. C'est décider de prendre le chemin de. Donc, si tu réinventes ta figure, là, pour le coup, Bareski, c'était quasiment un vagabond qui avait 6 ans de route quand le spectateur le découvre. Oui. Il avait barbu, machin.
Un peu moins clochard que lui.
Il était baroudeur, etc. Moi, le numéro zéro, il raconte une espèce de flic presque super urbain. On avait même mis ce superlatif pour s'en moquer. De type assez prétentieux, très médaillé, très
très
jupitérien. Et tout d'un coup, il se retrouve en pleine remise en question et puis il va faire un voyage à la campagne. Et là, il prend des rhumes, il sait ce que c'est que l'eau froide. Il est fragilisé, alors que la figure de Bareski était puissante. Elle était, c'est un homme urbain qui est dans un milieu hostile. Donc, il est fragilisé. La seule chose qui le rend... entre guillemets, solide, c'est son caractère et son besoin d'authenticité, son besoin d'aller vers les autres et de réparer quelque chose qui lui manque. Donc, une parole, une spontanéité, il y a beaucoup d'enfance, il y a beaucoup d'animalité et d'enfance, c'est pour ça qu'il s'entend très bien avec son chien.
On arrive au bout, Bruno, il faut vraiment qu'on termine l'émission. Juste, vos projets, les tournages, là, ce qui arrive, vous serez dans une série intitulée « Filles du feu », je crois, qui se passe au XVIIe siècle, une espèce de chasse aux sorcières.
Magnifique.
C'est bientôt, ça ?
Oui, un prétexte à évoquer le féminicide.
Ouais.
Oui. Fait historique, personnage historique, c'était très, très bouleversant pour moi. C'est le premier vrai méchant que j'incarne. C'est une figure, Pierre de Lancre, un magistrat qui a existé, qui fait partie de notre histoire, qui a été dépêché par Henri IV pour aller mettre au pas le Pays basque. Ouais. Pays libre, en 1600, qui refuse de payer les impôts, qui refuse que les routes viennent jusqu'à chez eux. Les hommes partent 6 mois en mer pour faire... ce sont des pirates, des baleiniers, et donc ils font commerce. Et ce sont les femmes qui dirigent le pays. Ce sont les femmes qui font la médecine, ce sont les femmes qui dirigent les affaires, ce sont les femmes qui font l'éducation. Et ce n'est pas possible à cette époque-là. Et donc on dépêche ce juge qui est spécialiste de la démonologie et de l'inconstance des femmes, et qui, tout d'un coup, par je ne vais pas détailler les circonstances, vous allez voir la série, c'est 6 x 52. Tout d'un coup, il se retrouve les mains libres, et là, il va assassiner, faire brûler je ne sais combien de femmes sous prétexte de sorcellerie.
De sorcellerie, absolument. Ce sera à France 2, France 3 ?
Ce sera probablement France 3. C'est vraiment j'ai adoré faire ça avec Magali Richard Serrano. La distribution est fantastique, c'est vraiment un film de femmes.
Avec un homme méchant. au milieu.
Oui, on est plusieurs méchants, mais non, c'est pas manichéen, c'est très très bien, ça va faire réfléchir à l'histoire, vraiment. Cette idée que l'histoire se répète et qu'il faut être d'une vigilance redoutable. Michel Larocque et
joue dans la série aussi.
Oui, ouais. Et Guillaume de Tonquédec qui fait un personnage sublime.
Et ben on verra ça prochainement, alors j'espère.
J'espère.
Merci.
Ça va être beau. Ouais.
Merci Bruno.
Merci beaucoup.
Merci
Bruno.
Damien. Merci absolument.
Tous mes vœux de santé.
Bah oui, bonne santé.
Bonne journée.
Bonne année.
Bonne année à vous.